Eric Meyer, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous décidé en 1987 de partir en Chine?
Eh bien, il y avait un certain nombre de raisons, mais pour les résumer en une seule, j'avais très envie d'aventure et j'avais décidé de découvrir la face cachée de la planète Terre. Parce que on dit le monde du Nord et le monde du Sud, le conflit Nord-Sud, c'est bien joli. Ça se réfère notamment aux Amériques, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Mais la vérité culturelle de l'humanité, c'est que vous avez l'Ouest et l'Est, pas le Nord et le Sud. L'Ouest parle latin au départ et chrétien, judéo-chrétien, et l'Est parle chinois en gros et confucéen. Donc il y a comme une batterie avec un pôle plus et un pôle moins sur cette terre. Mais c'est pas le pôle nord et le pôle sud, ce serait un pôle est et un pôle ouest qui serait l'Europe et la Chine. Par rapport à cela, je pensais que c'était très important pour avoir vécu une vie complète de connaître à long terme la face cachée de notre terre que nous ne voyons jamais, qui ne nous influence pas, ou à cette époque-là, qui nous influence en aucun cas, et voir un petit peu comment ça se passe, comment on pense, comment on écrit, comment on vit, comment on mange, comment on aime à cette extrémité du monde, quoi. C'est la première raison. Une autre raison beaucoup plus banale était que dans mon métier de journaliste, j'étais correspondant pigiste à Bruxelles. Nous étions des milliers de journalistes au kilomètre carré à nous battre sur les montants compensatoires monétaires et que je m'ennuyais à 100 sous de l'heure.
Alors, pour ne plus vous ennuyer, vous êtes parti à Pékin. C'est très très rare de rester si longtemps, il me semble. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce pays?
Mais écoutez, je vais d'abord répondre à la première moitié de votre question, car il est... disons que il n'était pas évident de rester extrêmement longtemps. 2 ans après mon arrivée, il y a eu le massacre de la place Tiananmen. Et à ce moment-là, j'aurais pu envisager de partir. Une raison très très matérielle s'est posée. Il y a eu la conjonction du fait que mes journaux me disaient « tu peux partir bien volontiers, mais c'est pas pour autant qu'on te donnera un autre travail ». Et puis, je venais d'avoir un enfant, notre premier fils, et donc je prenais un risque non négligeable. Donc la question s'est posée un petit peu différemment. Il fallait voir, est-ce que ce pays conserve un intérêt suffisant pour décider de rester, ou alors faut-il prendre le risque de carrément recommencer sa vie? Vu sous cet angle, j'ai toujours trouvé des choses importantes et intéressantes à défricher pour continuer à me former sur ce pays. Et même par rapport à, c'est un petit peu comme qui dirait une mission qui s'est dégagée finalement. Parce que ce pays est très peu connu, on sait des tas de choses, on croit savoir des tas de choses sur la Chine, mais finalement on n'en sait pas grand chose et les seules choses qui peuvent être sues ne peuvent l'être qu'à long terme. Il y a un défi, un enjeu qui est tout à fait considérable. Si les Occidentaux et les Asiatiques ne se comprennent pas, ça pourrait très mal se passer à l'avenir. Pour vous donner un exemple, la Chine est en train de réarmer à toute vitesse avec un budget de 60 milliards de dollars par an, dont 20 seulement qui sont avoués, le reste est caché. On ne sait pas pourquoi la Chine veut faire ce réarmement. Je ne crois pas qu'il y ait un plan secret diabolique pour aller conquérir le monde. Il n'y a pas de péril jaune. Par contre, la Chine est un pays qui a manifestement mis 2 fers au feu. Un fer pacifique et un fer offensif. En tout cas, leur objectif est d'avoir en l'an 2050 une armée qui est la puissance de celle des États-Unis. Ils y arriveront forcément, hein. C'est un pays de 22 à 23% de l'humanité, bien entendu, qui peuvent se doter d'une armée pareille. Mais il est fondamental, il est extrêmement important de garder une influence sur ce pays, de discuter avec lui, de l'orienter et le piloter. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir que le réarmement de la Chine commence au moment où la Chine s'ouvre. Donc les deux choses se passent en même temps. Et avant, il n'était pas nécessaire d'influencer la Chine. Au moment où elle commence à s'enrichir, elle investit d'un côté dans sa prospérité, de l'autre dans sa puissance. Et les deux sont admissibles d'un point de vue occidental, mais vu que la Chine ne fait pas les choses qu'à moitié et que c'est un pays si grand, il faut vraiment faire attention à quel sera son prochain pas et l'aider, la conseiller, l'avertir à chaque pas. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher, mais il pourrait faire beaucoup de casse en apprenant à marcher, vous voyez. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer dans ce pays. Et pour ça, il est tout à fait. Enfin, pour moi, j'estime que je suis un grain de sable perdu au fond d'un océan ou sur une mer de sable. Mais j'ai une position tout à fait exceptionnelle et dont je suis bien conscient. C'est un privilège très rare de pouvoir d'abord comprendre ce qui se passe, faire un jugement qui soit de type très très ouvert, très 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 éveillé, mais en même temps non violent et faire passer ce genre de message vers mon pays, vers la France, pour lui éviter à ce pays de croire à tout un tas de bobards, de peur de l'avenir, de peur d'un avenir chinois, etc. Donc, il y a des messages à faire passer, il faut d'abord les créer, et ça, c'est vraiment typique d'un travail à long terme. Le mandat d'un journaliste, c'est 3 ans techniquement. Partout où vous alliez, vous allez durer 3 ans, 4 ans, 5 ans au maximum, et après vous repartez ailleurs. On vous fait aller ailleurs. J'ai eu cette chance, étant indépendant, de me retrouver entre guillemets coincé dans ce pays. Mais j'ai aussi fait exprès, j'étais pas si coincé que ça. J'aurais pu prendre des risques et aller ailleurs. Simplement, ça n'aurait pas fait de moi quelqu'un qui connaisse bien ce pays, quoi.
Donc vous êtes très heureux d'être coincé. Être journaliste en Chine, est-ce que c'est plus difficile qu'ailleurs?
Il y a des aspects, ça dépend comment on fait ce métier. Il y a des aspects qui sont beaucoup plus faciles et des aspects qui sont beaucoup plus difficiles. Ce qui est facile, c'est d'abord quand vous allez sur le terrain, les gens ne vous cacheront rien. Ceux qui vous empêcheront de passer, c'est la police. Mais sur certains sujets assez rares, comme le sida dans des régions contaminées, des épidémies en cours dans les régions, dans les villages qui en ce moment même ont la grippe aviaire, ont des explosions de grippe aviaire parmi leur population de poulets et de canards, on ne nous laisse pas passer. D'une certaine manière, je dirais que c'est relativement normal. Donc, une autre chose qui est très facile, et ça c'est un petit secret des journalistes d'ici, c'est que la Chine ne nous dit rien et ne nous informe en rien. Et tout est mouliné à travers un vaste moulin d'idéologie. Et par conséquent, le travail que nous pouvons faire est d'une part prendre des informations qui passent de bouche à oreille, en bon français on appelle ça une rumeur, et l'analyser. Et ce qui est très facile, c'est de prendre cette rumeur, de l'analyser, et tout en sachant que personne ne va vous démentir. Ce qui fait que vous pouvez aussi avoir le risque de fausses prophéties ou de faux prophètes ici. C'est une terre où il faut être absolument humble et décréter haut et fort que la Chine est à tout le monde et que toutes les opinions sont bonnes à prendre et que ce n'est pas à nous de dire aux gens ce qu'il faut, comment il faut juger ce pays. Nous devons les informer et leur expliquer par quels moyens techniques ou sous quel cahier de charge telle information est en train de se dérouler. Et après, c'est aux gens de faire leur analyse. Nous avons donc une espèce d'obligation morale de nous élever au-delà des barrières de la gauche ou de la droite et de regarder ce pays, si on veut être sérieux, d'une manière totalement apolitique.
Est-ce qu'il y a une censure?
Mais évidemment, dans cette pièce, nous sommes écoutés à ce moment précis.
On dit que du bien, de toute façon.
Non, non, mais qu'on dise du bien ou du mal, ça n'a rigoureusement aucune importance. À mon avis, la censure est un exercice relativement innocent. Elle ne sert à rien. Mais elle est là.
Alors justement, on pourrait évoquer la société chinoise. Donc vous avez le recul d'une quinzaine d'années. Vous avez senti tous les changements, toute la mutation. Comment vous pouvez expliquer un petit peu cette société?
Bah écoutez, nous sommes passés d'une société qui ne connaissait pas l'argent et qui n'y croyait pas à une société qui ne vit que pour l'argent et qui vit sous un stress pour se l'approprier et pour le conserver. Donc, elle a muté du tout au tout et je n'irai pas dire que c'est en bien ou en mal. J'ai vécu trop de temps ici pour dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est simplement le mode de vie d'aujourd'hui est paradoxalement plus tendu que celui d'il y a 19 ans quand je suis arrivé en Chine. Quand je suis arrivé en Chine, à midi, tous les bureaux fermaient et les gens avaient de vastes bureaux très pauvres en mauvais bois. Et ils s'allongeaient sur leur bureau et s'endormaient sous 30 secondes. Ils mangeaient leur nouilles en faisant des grands slurps. Après, ils s'endormaient. On prenait sa douche à l'entreprise, par exemple, parce que dans la maison, il y avait pas de salle de bain où c'était trop sale, trop précaire, que de l'eau froide, des choses comme ça. Il n'y avait pas moyen de s'organiser, quoi. Aujourd'hui, on a des appartements nettement mieux. On en est propriétaire. Alors, on paye des sommes folles à la banque. On fait faillite aussi. On se fait confisquer son appartement après en avoir payé le tiers ou la moitié. On joue à l'argent. Autrement dit, on achète un appartement sans l'avoir payé, on met une hypothèque dessus et on prend un deuxième crédit, on en achète un deuxième et ainsi de suite. Et on peut acheter 5, 10 appartements et au bout de 3 ans, si vous n'avez pas fait faillite, et la plupart des gens n'ont pas fait faillite, alors ils mettent des gens dedans et ils deviennent riches comme ça sans travailler, ils deviennent rentiers. Il se dit que toute la ville de Pékin, par exemple, vit plus ou moins de ses rentes. 10 millions de Pékinois, et alors excusez-moi de persifler, de faire un mauvais jeu de mots, mais les métèques, les Chinois de l'extérieur, les pauvres ploucs venus de la campagne avec les bottes pleines de lisier, et ben c'est eux qui font tout le travail sale de la ville et qui la font tourner, en travaillant pour les autres. Autant pour le socialisme et pour la société démocratique en Chine.
Mais alors tous ces Pékinois, ils ont fait aussi l'apprentissage de la solitude.
Ah oui, c'est un mot extrêmement, extrêmement juste. La Chine est très seule. Elle est très seule. C'est peut-être un résultat normal d'une société qui vit en telle promiscuité, parce que c'est une solitude où vous êtes à 80 000 habitants au kilomètre carré ici. Et il y a des gens partout. Quand vous voyez un métro de Pékin, c'est pas comme le Val Lillois. Avec 3 voitures ou 5 voitures, là vous avez 15 voitures qui sont immenses et on pousse pour rentrer. Eh bien, ces gens sont seuls, seuls parce que il n'y a pas de dialogue, seuls parce qu'il y a la censure. On peut se parler de tout et on ne s'en prive pas. C'est vraiment une société très complexe. Il y a une forte liberté d'initiative. Personne n'empêchera personne d'aller marcher dans n'importe quel sens dans la ville ou d'acheter ce qu'il veut acheter s'il en a l'argent, même des actes parfaitement répréhensibles et les lois ne sont pas appliquées. Vous avez une prostitution foisonnante dans cette ville, du vol à la tire à n'en plus pouvoir, de la mendicité. Tout ça, ce sont des phénomènes c'est une expression d'une certaine liberté. Mais les gens n'ont pas le droit de parler de thèmes politiques. Il y a un certain nombre de sujets qui ne doivent pas être prononcés. Et donc on les prononce pas. Et finalement, les parents ne peuvent pas parler avec leurs enfants. On ne parle plus que de soi ou de gagner de l'argent. La culture est en train de changer d'une manière violente dans ce pays. Par exemple, on ne lit plus. Même les journaux sont en perte de vitesse, les livres sont, la lecture du livre est en perte de vitesse. Je suppose qu'en France aussi, mais ici c'est assez grave. Et donc, des gens qui ne communiquent pas entre eux, qui ne pensent qu'à s'enrichir ou à manger, à boire ou à faire l'amour, et qui ne lisent pas non plus, ça donne forcément un résultat difficile, quoi. La solitude est partout. Vous avez dans ce pays 300 000 suicides aboutis par an et 2 millions de tentatives. C'est une des expressions de ce malaise chinois. Disons que pour nous résumer, voilà un pays qui est plein d'espoir, qui s'enrichit à toute vitesse, mais sa croissance, il la paye. Et puis, très paradoxalement, un institut américain, Pew Research Center, a fait une étude de bonheur et d'optimisme sur 17 pays du monde. Eh bien, par rapport à tout ce que je vous dis, à votre avis, la Chine se place en quelle position par rapport à l'espoir, le bonheur, l'optimisme et le contentement dans ces années passées et l'espoir dans les années d'avenir, à votre avis?
Moi, je pense qu'ils sont très devant parce que je pense qu'ils croient énormément à l'avenir et que ce changement de société est pour eux un moteur.
Eh bien, vous avez entièrement raison. La Chine est le numéro un mondial de la foi. Les questions sont comment avez-vous évolué au cours des 5 dernières années? Estimez-vous avoir progressé? La Chine donne la meilleure réponse par rapport à 17 pays. Comment voyez-vous votre État national sans démocratie, sans avec censure de la police partout? Le taux de satisfaction en Chine est de l'ordre de 72%, alors que l'Allemagne est 73% en haine avec son propre pays, déçu de son État, de son gouvernement, de sa structure nationale. Les États-Unis sont déçus à 53%, et malheureusement, j'ai cherché la réponse afférente à la France, je l'ai pas trouvée. Elle n'était pas indiquée, et même sur le site internet de cette digne compagnie. Donc, je suppose que la France serait assez fâchée avec son État aussi, mais elle serait pas la seule, quoi. Il est très étonnant de voir cette Chine naïvement heureuse et en plein bonheur, malgré son stress et sa solitude. C'est plein de paradoxes. C'est un pays en plein bouleversement.
Alors, vous étiez en 89, justement, on l'évoquait tout à l'heure, à Tiananmen. Ça s'est passé comment, pour résumer rapidement?
Ben, d'abord, ça a commencé en mai, je crois. Ça a été la mort d'un très grand personnage qui s'appelle Hu Yaobang et qui vient d'être réhabilité entre hier et aujourd'hui même, c'est-à-dire à la mi-novembre, à l'occasion de son 90e anniversaire. Réhabilitation posthume. Parce que pendant 16 ans, pendant 20 ans, il était au banc de la société politique et il avait perdu tout pouvoir, il était considéré comme quelqu'un de pas bien, quoi, en gros. Et pourtant, c'était le concepteur et le numéro un de la réforme économique en Chine. Et cet homme a estimé très tôt que la Chine ne pourrait pas faire l'impasse sur une réforme également politique. C'était un homme qui avait 25 idées par jour, dont 24 qui rataient et une qui marchait génialement. Et certains s'étaient amusés à l'appeler le Jacques Attali de la Chine, quoi. En tout cas, à peine il était mort, quelques heures plus tard, vous aviez 1 000 étudiants qui sont arrivés en pleine nuit sur la place Tiananmen. Ils avaient fait un meeting toute la nuit et survoltés par leur discours, ils sont partis. Ils ont été place Tiananmen. Et je crois bien qu'ils en sont repartis un petit peu. L'occupation n'a pas été permanente, mais ensuite ils sont revenus. Et ils ont demandé à discuter avec le gouvernement, donc Li Peng et Zhao Zhenyang. Li Peng plutôt de gauche, enfin, conservateur, et Zhao Ziyang plutôt du bord de Hu Yaobang. Et bon, bah, le gouvernement a essayé de les contenter, mais pas sur le fond, quoi. Et puis, il n'était pas question de laisser une partie de la population négocier avec l'État. C'était la fin du centralisme démocratique et du bras armé de la dictature du prolétariat. Donc, je dis ça en blaguant, hein, bien entendu, parce que ils auraient parfaitement pu recevoir. Ils ont reçu ces jeunes d'ailleurs, mais ces jeunes demandaient presque des excuses par rapport à une réhabilitation immédiate de Hu Yaobang et des excuses par rapport à la manière dont il avait été traité. À ce moment-là, on leur a dit, écoutez, les enfants, rentrez chez vous. Et puis, au lieu de rentrer chez eux, ils ont continué à affluer et ça a terminé par la manifestation la plus forte qu'il y a eu, place Tiananmen. En fait, c'était des marches entre le quartier des universités et la place Tiananmen. Cette manifestation la plus forte a concerné 2 millions de marcheurs. Mais on en était à 6 semaines plus tard et ces millions de marcheurs venaient de toute la Chine. Un immense élan d'espoir, avait déferlé sur le pays, l'idée qu'on arriverait à une Chine sans violence et démocratique et où le Parti communiste céderait gracieusement le pouvoir sans se défendre et renoncerait à son monopole de l'organisation de la société. Et il n'en a pas été question. Le Parti communiste a fait un coup d'État intérieur pour chasser Zhao Ziyang, qui essayait de développer des thèses du style de celle de Hu Yaobang vers une réforme politique. Et donc, ils ont demandé à toutes les provinces et à toutes les régions militaires de voter pour la. Voter par Telex, hein, pour la contre-réforme conservatrice. Et ensuite, on a envoyé les chars d'assaut sur la place Tiananmen et on a nettoyé tout, quoi, dans le sang.
Finalement, ces étudiants étaient des grands naïfs.
C'était des gens qui croyaient qu'on pourrait faire l'impasse sur la violence et que le bien commun prévaudrait, qu'il n'était pas question de que l'armée du peuple tire sur le peuple. Donc oui, effectivement, c'était totalement naïf. Mais c'était des gens qui sortaient tout juste d'un moule et qui ne se rendaient pas compte des différents volumes ou des différentes strates de complexité de la Terre. Ils ne croyaient que à la morale. Et effectivement, on ne pouvait pas trop discuter par rapport aux vieux chevaux de retour qui dirigeaient la Chine. C'était pas du tout de la morale. On en était au niveau du pouvoir politique, là, effectivement. Ben, ça a coûté très cher à la Chine, hein. Elle en a bien profité ensuite, mais elle a perdu 5 années de développement.
Oui, c'était des années de glaciation après.
Oui, tout à fait. Pendant 2 années, vous avez eu sur tous les murs des annonces en langue chinoise uniquement qui donnaient des numéros de téléphone de dénonciation anonyme. On vous garantissait l'impunité même si l'information était fausse. Enfin, c'était une période extrêmement pénible pour tout le monde. Pour les Chinois et bien sûr pour les étrangers, mais pour nous qui sommes restés sur place, c'était un choix. Eux, c'était pas un choix. Ils étaient vraiment pris au piège. Le piège était dans les deux sens, parce que le gouvernement aussi était pris au piège. Ils ont, en gros, à cette époque-là, dit, vous avez le droit de vous, surtout à partir de 92, quand Deng Xiaoping a relancé la réforme économique, il a dit, bon, on ne fera pas de réforme politique, on n'en fera jamais, et ce pays ne bougera plus jamais sous l'angle de la démocratie. Nous avons trouvé le bon système qui est adapté à la Chine, mais vous avez le droit de vous enrichir. Vous avez le droit de vous enrichir, et donc nous allons organiser que la Chine ait une croissance mirobolante chaque année. Et ce n'est pas très difficile à organiser finalement à partir d'une société extrêmement policée, très disciplinée, avec plein de matières premières, commencer à faire des télés, des postes de télévision, les exporter, faire des matériaux de plus en plus complexes, créer un marché intérieur. C'est pas très difficile. Simplement, l'État était obligé de faire passer, par exemple, cette croissance économique avant la lutte contre la pollution, ou avant la santé, ou avant tout un tas de domaines qui étaient indispensables, comme par exemple des pratiques sociales qui se sont réveillées sous Deng Xiaoping et qui n'ont pas pu être éradiquées. L'État s'en foutait, quoi. Par exemple, l'euthanasie des bébés-filles, ou l'euthanasie tout court d'ailleurs, mais l'euthanasie des bébés-filles où on choisit donc avortement sélectif, où on élimine dans certains endroits une proportion vraiment importante des filles, quitte à se retrouver 20 ans plus tard avec 130 garçons pour 100 filles. Ce qui est le seul endroit au monde où ça arrive, donc pas de mariage, donc 50 millions de garçons célibataires d'ici 20 ans.
C'est impressionnant, effectivement. Alors pour demain, la démocratie en Chine, vous y croyez?
La démocratie doit être. Mais là c'est une question extrêmement abstraite, hein, qui concerne seulement en partie la Chine. Elle doit être redéfinie, cette démocratie. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'elle va être redéfinie chez nous aussi? C'est une chose qui se. Je ne sais pas si on peut copier la démocratie. Elle a lieu en Amérique, au Japon et en Europe sous des formes relativement voisines, mais peut-être en Australie encore, mais pas vraiment ailleurs. En Afrique, elle n'existe pas. En Asie, pas encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas exister. Les gens la demandent. Et à un moment donné, pour se développer, une fois que tout le monde est docteur en médecine ou avocat, ou enfin les Chinois eux aussi commencent à avoir pas mal de diplômés, quoi. Ils en forment, ils diplôment 4 millions de gens par an, hein, d'ingénieurs. Donc tous ces métiers pour exister ont besoin de démocratie. Rien que pour cette raison, la Chine est condamnée à. Le gouvernement va soit imploser, soit octroyer des pans de liberté beaucoup plus importants. Mais la liberté ne peut pas signifier, par exemple, de laisser créer de laisser s'instaurer en Chine des situations comme celles qu'on vient de voir en France, où on va brûler toutes les voitures dans les banlieues, des choses comme ça. Ça tient pas la route. La Chine ne le laissera pas faire, mais surtout. Elle n'a pas les moyens de faire face à ce genre de situation. Donc, la démocratie, par exemple, si on parlait de la démocratie de la consommation, est-ce que la Chine doit consommer autant que l'Europe? Nombre de voitures, nombre de vacances, maisons supplémentaires, pour moi, c'est pas du tout évident. On ne peut pas se permettre ça. Consommer autant d'énergie? Pas du tout évident non plus. Donc, peut-être que à quoi ressemble une démocratie dans laquelle on introduit la frugalité? Je crois qu'on va évoluer tous vers cela, mais à des rythmes différents. La Chine, pour commencer, ne peut pas se permettre de nous rejoindre dans nos excès. Les petits excès que nous avons en France, en Allemagne ou en Amérique ne sont pas reproductible au niveau de la planète. Là, ça devient l'explosion générale. La Chine fait des efforts en démocratie. Elle ne croit pas du tout à. Elle croit que la peine de mort est une très bonne chose. Moi, je suis persuadé du contraire, bien entendu. Elle vient d'organiser, elle est en train de mettre en place un système d'appel automatique obligatoire pour toute peine de mort, où la peine de mort va être reportée le temps que le niveau central, c'est-à-dire Pékin, donc la justice, une justice de la capitale revoie le dossier et dise est-ce que il y a vice de forme, est-ce que ça correspond vraiment à ce verdict-là, et les Chinois en attendent une, entre guillemets, économie de 30% de leurs exécutions en Chine. Pour le moment, ils en auraient jusqu'à 20 000 par an, et avec 20 000 par an, ils seraient à 98% de toutes les exécutions sur Terre.
Beaucoup. Alors, les Chinois ne pensent qu'à gagner de l'argent, mais les Américains aussi. Quel est l'avenir du libéral communisme à la chinoise?
L'avenir du...
Libéral communisme, c'est-à-dire que oui, cet État qui mélange un capitalisme quand même assez effréné et des règles communistes.
Ce qu'il est en train de créer ne va pas disparaître. En ce moment, sont en train d'émerger les Rockefeller, ou les Ford de la Chine, les nouvelles grandes fortunes. Et ce sont des, nous avons dès aujourd'hui un homme qui a une fortune personnelle d'1,6 milliard de dollars en Chine. Cela dit, la Chine va devoir très rapidement se poser d'autres questions que celles de l'argent, notamment celles de l'environnement. L'air chinois que vous voyez dehors est rose, ce n'est pas une couleur normale ni honnête pour un air dans une ville, ça ne devrait pas avoir cette couleur-là. Et ce rose, il se dépose dans nos poumons. Ce n'est pas bon pour la santé, l'espérance de vie. Surtout des Chinois qui ont une base, un socle de santé qui est moins bon que le nôtre, c'est très dangereux. Donc il va falloir très rapidement faire autre chose. Pour le faire, ils ne pourront pas faire l'impasse d'un dialogue, demander aux gens quoi faire et surtout leur demander de participer. Ce que nous faisons sans nous en rendre compte. Nous sommes des peuples extrêmement socialisés en Europe, en France. Nous sélectionnons nos ordures, mais ça, c'est rien du tout. Il y a des tas de choses qu'on fera pour économiser l'énergie, pour faire en sorte que on accepte, par exemple, que nos voitures ne roulent pas tel jour parce que le taux d'ozone est trop élevé, des choses comme ça. Et on va aller toujours plus dans ce sens-là. Bien, la Chine doit commencer à comprendre que chaque Chinois est responsable de lui-même de son environnement. C'est pas la faute aux autres s'il y a des papiers ou des bouts de verre partout dans la rue. Donc, ça, c'est la première chose à apprendre. Il y a 25 ans, nos forêts étaient pas jolies à voir, quoi. Il y avait des ordures partout, des campeurs qui étaient passés, il y avait des décharges sauvages. Bon, ça s'est, je crois, pas mal calmé en France, on s'est éduqué. La Chine doit suivre ce chemin-là. Et pour le faire, eh ben, là, il n'y a pas le choix. Si on dit, on va échanger, on va participer, nous sommes tous dans le même bateau, ben, tout ça, ce sont des paraphrases pour définir la démocratie. C'est le fruit de la démocratie, auquel la Chine n'aura pas le droit sans intéresser ses citoyens au devenir de la nation.
Éric Meyer, merci. Nous étions avec Éric Meyer qui répondait à mes questions en novembre 2005 à Pékin.